enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alors j'aimerais lire avec vous un texte que vous connaissez bien, qui se trouve dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 14. Il s'agit de la parabole du semeur. Marc, chapitre 4, verset 14. Voyez-vous, je crois qu'en partie, si Jésus, quand il parlait aux disciples, qu'il avait finalement très peu de temps pour former, puisque son ministère à Jésus n'a duré à peine que plus de 3 ans, eh bien, si Jésus leur parlait également par parabole, c'est parce que les paraboles étaient des images. Et l'image contient toujours plus d'informations que le texte. Hein, pour ceux qui ont des ordinateurs, lorsque vous enregistrez un message dans le disque dur, il prend toujours plus de place qu'un texte. Pourquoi ? Eh bien parce que l'image nous parle énormément. Hein, lorsque vous analysez un tableau ou une image, vous pouvez y trouver beaucoup plus d'éléments que dans un texte. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle, eh bien, Jésus, dans ce texte, nous a donné une image. Voyons ensemble ce qu'il veut, au travers de cela, eh bien, nous dire ce soir. La deuxième partie de cette parabole, lorsque Jésus l'explique, dit ceci. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole. Ils la reçoivent, ils portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Jusqu'ici. Voyez-vous, il y a certaines histoires, lorsque je les lis dans la parole de Dieu, qui me semblent être plutôt tristes. Quand je lis en particulier cette image que Dieu utilise quant aux deux chemins que nous pouvons emprunter les uns et les autres, celle-ci également, au même titre que la parabole du semeur, me semble triste. Dans Matthieu chapitre 7, verset 13, il nous est parlé de deux chemins que nous pouvons emprunter. Il y a ce chemin qui est large et que beaucoup empruntent, mais qui malheureusement mène à la perdition. Et puis il y a ce chemin étroit que peu empruntent et qui lui mène à la vie éternelle. Alors pourquoi ce passage est-il triste ? Eh bien, il est triste lorsque Jésus déclare lui-même dans sa parole que ceux qui prennent le chemin étroit qui mène à la vie éternelle sont peu nombreux. Et lorsque, effectivement, nous lisons ce texte et que nous regardons la réalité lorsque nous annonçons la parole, il nous semble que ce texte dit vrai. Peu nombreux sont ceux qui empruntent ce chemin étroit, certes difficile, mais sur lequel, au bout, Jésus nous promet la vie éternelle. Eh bien, ce texte de Matthieu 7 ressemble également au texte de Marc, chapitre 14, la parabole du semeur, qui est une parabole relativement triste, puisque lorsque nous la lisons, nous ne voyons que malheureusement une seule semence sur 4 qui est semée dans la terre, eh bien, germe, grandit et porte son fruit. 1 sur 4. C'est une réalité que nous donne la parole de Dieu et qui, me semble-t-il, est triste. Alors, quand je lisais cette parabole, je me suis quelque peu, consolé. par ce passage qui dit que finalement, ce qui nous appartient à nous, c'est de semer l'évangile dans les cœurs. Mais ce qui appartient à Dieu, qui finalement est le plus important et que nous ne pouvons pas faire, c'est de permettre à Dieu de faire croître la semence qui est semée dans les cœurs et de permettre que celle-ci grandisse et produise du fruit. Il est dit dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 3 versets 6 à 8, c'est Paul qui parle, il dira ceci: j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ou qui prie sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Dieu fait croître cette semence que nous semons avec joie. C'est lui qui fait ce travail. C'est lui qui crée la vie lorsque la semence de la parole est semée dans les cœurs. L'autre jour, je parlais à mon fiston Timothée. Et lorsque je le regardais, je lui disais: Timothée, quand je te regarde et quand je regarde mes trois enfants, je suis fier de ce que j'ai pu produire. Vous êtes tellement mignons. Et puis alors il me regarde et il dit: non papa. Je lui dis: comment ça non? Il me dit: non, c'est pas toi qui m'as fait. Alors un moment, je me suis dit: tiens, saurait-il quelque chose que je ne sais pas? Et puis il me regarde à nouveau dans les yeux et il me dit: non, c'est pas toi qui m'as fait, c'est Dieu qui m'a fait. Et alors, me laissant reprendre par mon fils, j'ai dit: oui, fiston, tu as raison. Finalement, moi, je n'ai fait que semer. Mais Dieu a permis que ce qui a été semé puisse grandir, soit tissé dans le sein de la mère et produise les trois merveilleux enfants que Dieu m'a donné. Amen. C'est lui qui fait croître et il en est de même avec la parole de Dieu. Je me console également en lisant ce texte de cette parole qui dit qu'une âme, une vie, vaut plus que tout l'or du monde. Alors si pour quelques vies, pour la parabole du semeur, une sur quatre, pour le chemin, quelques-uns, peu nombreux, mais si quelques vies, au travers de la semence que nous semons, quelques vies précieuses qui ont du prix aux yeux de Dieu peuvent être sauvées, alors béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et puis il y a également cette parole qui dit ceci. Dans le psaume chapitre 126, versets 5 et 6, il est dit: ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Peut-être pleurez-vous aujourd'hui parce que vous voyez, alors que vous témoignez, la réalité de la parabole du semeur. Peut-être pleurez-vous parce que vous voyez, alors que vous semez inlassablement la parole de Dieu, la réalité de ce chemin étroit que peu emprunte. Mais réjouissez-vous parce que si aujourd'hui vous semez avec larmes, un jour vous récolterez avec joie ce qui a été semé de tout votre cœur, parce que Dieu permettra, en tout cas dans certains de ces cœurs, que cela croisse et porte du fruit. Amen. Je me rappelle toujours ce vieil homme qui avait 80 ans, alors que nous étions en train d'afficher, de mettre des affiches: Jésus t'aime, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Alors que venait l'heure de 23 heures le soir, nous n'avions rencontré personne à qui nous pouvions témoigner. Et là, dans mon cœur, je disais: Seigneur, bien qu'il soit tard, permets que je puisse rencontrer une personne à qui nous pouvons parler de toi. Et ce vieux grand-père, qui faisait plus de 80 ans, sur son vieux vélo, arrive doucement, s'arrête au niveau de l'affichage, de l'affiche qui avait été posée. Et là, posant son regard sur l'affiche, voyant le texte qui était écrit, eh bien, a commencé à pleurer. Et nous avons pu ensemble, eh bien, lui permettre de recevoir, non pas seulement de manière visuelle, le message qu'il venait de voir, mais de le recevoir également dans son cœur. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est merveilleuse. Nous ne devons pas nous lasser de semer cette parole. L'autre jour, il y a trois mois, quatre mois de cela, un jeune homme m'appelle et me dit, écoute, je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Je lui dis, écoute, dis-moi toujours. Il me dit, mais tu étais venu, alors que tu travaillais dans le commerce, faire un stage en poissonnerie. Alors, ça tombe bien en ce jour du 1er avril. Et puis, tu m'as parlé inlassablement de ce Jésus que je ne connaissais pas. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je m'étais quelque peu moqué de toi. En tout cas, j'étais bien indifférent à ce moment-là de ce que tu disais. Eh bien, 7 ans après, cette parole a accompli son œuvre dans mon cœur. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Seigneur, je lui appartiens et je le sers de tout mon cœur. Amen. Alors semons cette parole qui, même si elle l'est dans des cœurs qui semblent difficiles, eh bien pourra par la grâce de Dieu croître dans ces cœurs que Dieu connaît et que Dieu voit. Parlons peut-être un instant de la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. Nous sommes les semeurs. Et le contenu essentiel de la semence de la parole de Dieu est décrit dans ce texte que Paul cite dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15 à 17. Voilà ce qu'il est dit. C'est une parole ou une semence certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais, dit Paul, j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Paul disait lui-même que la parole, la semence, était certaine et digne d'être reçue. Aujourd'hui, nous avons tout un tas d'informations qui nous viennent de divers médias. Et nous prenons ces informations comme argent comptant, alors que je suis loin de croire que les paroles qui sont véhiculées par les médias, mis à part Phare FM bien sûr, sont toujours dignes d'être reçues. Je suis loin de le croire, mais Paul lui dit, par rapport à sa parole, qu'elle est certaine et digne d'être reçue. Autrement dit, lorsque la semence de la parole de Dieu est semée, nous pouvons la recevoir parce qu'elle est digne d'être reçue. Tout ce qui y est dit dans les moindres détails est une vérité, amen. Et Dieu a signé chaque page de sa parole. Il a lu et approuvé sa parole. Il a soufflé à ses serviteurs. Inspirer veut dire souffler à ses serviteurs la parole de Dieu. Elle est digne d'être lue et approuvée. Amen. Lorsque nous signons des actes notariales ou notariaux, je ne sais pas si on dit notarial ou notariaux, certains le savent, je le vois à leur grimace. Lorsque nous signons, il nous faut de temps en temps marquer « lu et approuvé ». Et paraphé à chaque page. Mais avant ça, il nous faut lire ce qui est écrit. Et bien sûr, si nous signons, être d'accord avec ce qui est écrit. Quand j'étais à l'école, quand j'étais un petit peu plus jeune, et lorsque je recevais des punitions, parce que ça m'arrivait de temps à autre, j'allais voir ma maman et je lui donnais une feuille blanche. Puisqu'elle devait signer la punition, autant qu'elle signe avant que la punition n'y soit, hein. Et puis sur cette feuille blanche, je lui disais « Maman, j'aimerais bien savoir comment tu signes, est-ce que tu pourrais signer au bas de la page ?» Et puis quand elle avait signé, voilà que j'allais dans ma chambre pour faire mes 50 lignes, mes 100 lignes. Bien sûr, au bout de la troisième ou quatrième signature, elle s'en est rendue compte, hein. Mais elle n'avait ni lu ni approuvé ce qu'elle avait signé. Mais Dieu, lui, dans sa parole... Chaque page, il les a lues, il les a approuvées, et je peux confirmer qu'elle est sa parole digne de confiance. Alors laissez-moi peut-être ce soir vous donner 3 preuves qui attestent que, eh bien, la semence de la parole de Dieu est digne d'être reçue. La première des preuves que j'ai notées, il y en aurait bien sûr tant d'autres, mais la liste n'est pas exhaustive. La première des preuves, c'est que la parole de Dieu comprend des centaines et des centaines de prophéties. qui ont été pour les unes déjà accomplies, pour d'autres, et nous le croyons, elles doivent encore s'accomplir. 27% de la parole de Dieu est contenue de prédictions que Dieu a déjà accomplies ou va encore accomplir. Un nombre incalculable de versets nous parle de choses ou nous ont parlé de choses qui sont arrivées ou qui vont arriver. Et lorsque vous lisez les textes de la parole de Dieu, vous voyez dans Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 10, qu'il est dit ceci. C'est Dieu lui-même qui parle et au travers de son prophète, il dit « Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Dans les textes d'Ézéchiel, dans les textes d'Ésaïe, il est notamment parlé de cette nation, le peuple d'Israël, qui serait reconstruit en une journée. Or, l'on sait, face à ces prophéties qui se sont accomplies, qu'Israël est devenu une nation le 15 mai 1948. Seul Dieu pouvait dire et accomplir cette parole. Et lorsque vous regardez les textes, je voudrais en particulier ce soir vous rendre attentif sur les prophéties qui ont annoncé, avant que Jésus ne vienne, sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection. Et je voudrais vous les annoncer au travers de ce que l'on appelle un calcul de probabilité. Alors vous allez me dire, c'est quoi un calcul de probabilité? Faisons ce soir un petit peu de mathématiques. Le calcul de la loi des probabilités est un calcul qui est très sérieux, puisque certaines entreprises aujourd'hui, lorsqu'elles font des études de marché, utilisent ce calcul de la loi des probabilités. Certaines compagnies d'assurance, pour calculer leurs primes et le montant des assurances, bien sûr elles ne vont pas prendre de risques, utilisent ce calcul sérieux de la loi des probabilités. Je vous explique au travers d'un objet, une pièce. Lorsque vous jetez une pièce, vous avez, pour qu'elle ne tombe sur le côté face, qu'une chance sur deux. Vous êtes d'accord? Soit pile, très bien. Lorsque vous jetez deux pièces en l'air, pour que les deux pièces retombent par terre, toutes les deux sur le côté face, vous avez une chance sur quatre. Lorsque vous faites tomber, je complique, 10 pièces, pour que toutes les 10 tombent sur le côté face, vous avez une chance sur, alors pour ceux qui sont bons en maths, 2 puissance 10. Autrement dit, une chance sur 1024 pour que les 10 pièces tombent toutes les 10 en même temps sur le côté face. C'est le calcul des probabilités. Je pense qu'aucun d'entre vous ne serait prêt à risquer son salaire sur un tel pari, en réalisant, selon le calcul des probabilités, qu'il n'est que si peu de chances de retrouver son salaire. Aucun d'entre vous. D'ailleurs, même pas avec une pièce, moi j'essaierai. Hein. Même pas avec une pièce, même pas avec une chance sur deux. Eh bien, essayons ce même calcul sur les prophéties de Jésus. Je n'aurai bien sûr pas le temps de vous les donner toutes, mais laissez-moi vous en dire quelques-unes. Michée chapitre 5 verset 1 a annoncé ceci, la naissance de Jésus à Bethléem. On a calculé pour que Jésus naisse à Bethléem, il y avait une chance sur 2400. Alors c'est des chiffres évidemment à peu près approximatifs, mais qui reflètent un peu la réalité. L'accomplissement se trouve en Matthieu, chapitre 2, verset 1. Cherchez pas les textes, ce serait trop long. Je pourrais vous les donner si vous le désirez. Il est dit, Matthieu, chapitre 2, verset 1, Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Cette parole s'est accomplie. Psaume, chapitre 22, verset 17, il est prédit que ses mains et ses pieds seraient percés. Cette parole s'est accomplie et avait une chance sur 100 pour s'accomplir dans Luc chapitre 23, verset 33. Psaume chapitre 22, verset 19. Il est prédit que les vêtements de Jésus allaient être tirés au sort. Une chance sur 100. Accomplissement dans Jean chapitre 19, verset 23 à 24. Laissez-moi en dire encore une dernière. Il est dit que son corps ne verrait pas la corruption. Une chance sur 10 000. Probablement plus. Mais ceux qui ont fait ce calcul-là ont réfléchi aux résurrections dans l'Ancien Testament et se sont dit que l'on accorderait à cette probabilité une chance sur 10 000. Psaume chapitre 16, verset 10. Et elle s'est accomplie dans Actes, chapitre 2, verset 31. Alors certains se sont osés à dire, oui, mais Jésus qui connaissait l'Ancien Testament s'est arrangé pour que se produise ce qui a été prédit. Oui, on pourrait le croire pour certaines choses. Mais comment Jésus aurait-il pu produire sa naissance à Bethléem, selon Michée, chapitre 5, verset 1? Impossible. Alors laissez-moi vous dire que selon le calcul des probabilités, ne fût-ce que de ces 17, je ne les ai pas toutes citées, mais ces 17 prédictions qui se sont accomplies, il y aurait, si l'on croit au hasard, une chance sur 480 milliards fois 1 milliard fois 1 trillion pour qu'elles s'accomplissent. Alors je ne sais pas combien il y a de zéros là derrière. Ne cherchez pas, hein. Il y en a sûrement trop pour qu'on puisse le comprendre. Mais essayons d'imager ce chiffre. Imaginez que la terre soit recouverte de grains de sable. Toute la terre. Y compris là où il y a la mer actuellement. Recouverte. Sur 10 kilomètres de profondeur. D'accord. Ça en fait des grains de sable, hein. On vous bande les yeux. On bande les yeux à une personne et on peint un grain de sable en bleu. Et ce grain de sable, on le cache quelque part. Et avec les yeux bandés, voilà ce que vous donne la possibilité de trouver du premier coup avec les yeux bandés ce bout de sable, ce petit sable bleu. Impossible. Impossible. Et je ne vous ai parlé là que des 17 prophéties de l'Ancien Testament concernant Jésus. Il y en a encore tant d'autres. Comment, sur la base de ce sérieux calcul, peut-on douter que Dieu soit à l'origine de sa parole, que Dieu soit digne d'être reçu dans ce qu'il a dit dans sa parole? Deuxième signature de Dieu, je parlerai des découvertes archéologiques qui ont été faites depuis maintenant plusieurs années. Le professeur Gluck, alors je ne sais pas si vous le connaissez, Gluck ça veut dire chance en allemand, hein, papa Jean, Glücklich. Alors je ne sais pas s'il lui a été chanceux, mais il dira la chose suivante, lui qui est un chercheur, un archéologue, parmi les centaines de milliers d'objets qu'ont trouvé les archéologues, aucun n'a jamais contredit ou nié un mot, une phrase, une clause, ou un jugement de la Bible. Au contraire, ces découvertes ont toujours permis de confirmer et de vérifier les faits rapportés dans les récits bibliques. La signature de Dieu, elle est évidente. Laissez-moi vous donner juste un exemple. Entre 1930 et 1936, ont été faites des fouilles quant à la ville de Jéricho. Vous vous rappelez? Cette ville dans Josué, qui est la première ville qu'ont assiégé le peuple d'Israël. Et lorsqu'ils ont fait la fouille des murailles de Jéricho, ils se sont rendus compte que les murailles n'étaient pas comme toutes les murailles qu'avait dû vaincre le peuple d'Israël, pour les peuples qui étaient fortifiés. Mais que cette muraille était tombée sur elle-même, et non pas derrière, mais également devant elle. Et il est dit dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 20, le rempart s'écroula sur lui-même et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Seule la puissance surnaturelle du Dieu, de la parole de Dieu, a pu produire de telles choses. C'est la signature de Dieu. Et il y aurait bien sûr tant d'autres choses. Troisième signature de Dieu. Lorsque Dieu vient aujourd'hui dans une vie, lorsqu'il touche ou qu'il a touché de tout temps une vie, Jésus fait des miracles, change les vies, transforme les vies et manifeste sa gloire là où personne ne peut le faire. Et cela montre également la puissance de Dieu, la véracité de ce que dit sa parole. Chacun d'entre nous, nous aurions multitude de témoignages à partager de ce que Dieu accomplit aujourd'hui encore. Et lorsque nous pouvons témoigner de nos expériences, nous pouvons en même temps témoigner de la véracité de la parole de Dieu. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Juste vous raconter un petit témoignage pour illustrer cela. J'ai demandé à ma fille si j'avais le droit de le dire. Elle m'a dit oui. Quand le week-end de jeûne était fini, elle est venue me voir le soir et m'a dit « Papa, j'aimerais te dire quelque chose, te demander quelque chose. » Ouh, alors quand ça commence comme ça, moi je commence par avoir l'adrénaline qui monte. Elle me dit « Papa, je voudrais faire un tatouage. » Oh yeah. Je voudrais juste me faire un tout petit tatouage sur le bas de la jambe droite. Mais c'est un joli tatouage, papa, hein? Une belle étoile. Puis personne ne le verrait. C'est super les tatouages que personne ne voit. Alors, évidemment, dans de tels cas, naturellement, peut-être, vous auriez tendance à dire non et à être très ferme. De plus, elle me dit, papa, il faudrait que j'aie la réponse pour mercredi. On était lundi soir. Puisque si je ne l'ai pas mercredi, faute que tu me dises non, bah, j'irai le faire. Alors, je lui dis, écoute, c'est bien, ça me laisse une journée pour prier. Je vais donc demander à Dieu conseil, hein, plutôt que de lui sortir des versets, de les réciter, du haut de mes 1m86. Et puis j'ai prié. Au même moment, ma fille me demandait cela, le téléphone sonne. Et un frère me dit, écoute, est-ce qu'il serait possible que j'ai un rendez-vous? Je lui dis, écoute, si tu veux, demain matin, j'ai un temps de libre. Il me dit, parce que j'ai une question à te poser et j'aurais besoin vraiment que tu me renseignes là-dessus. Et puis il me dit également, je voulais prendre rendez-vous avec Claude, mais puisqu'il me connaît depuis que je suis petit, puis je voulais prendre rendez-vous avec Sam, mais je sais qu'il est très pris, et puis quelque chose m'a poussé à prendre rendez-vous avec toi. Je dis, pas de problème, tu viens demain matin, on discute ensemble. Puis le frère rentre dans mon bureau, je lui dis, bon, écoute, quelle est la question que tu veux me poser? Il me dit, écoute, quand j'étais jeune, fait des bêtises. Je me suis tatoué. Et je voudrais que tu me dises si oui ou non Dieu voudrait que j'enlève mes tatouages. Alors je ne vous dirai pas ce que je lui ai répondu. Mais il me dit également, vois-tu, quand j'étais petit, j'ai commencé par un tout petit tatouage. Et à partir du moment où j'ai commencé par un petit tatouage, eh bien, je n'ai plus pu m'arrêter. Ils ont grandi, grandi, grandi. Si bien qu'aujourd'hui, ils envahissent un petit peu. Mes amis, je suis rentré à la maison, j'ai pris le téléphone et j'ai dit, ma chère fille, Dieu m'a parlé. Et au travers de l'entretien que j'avais avec le frère qui a été poussé à m'appeler au moment où ma fille me posait la question, j'ai eu la réponse pour toi. Ne te mets pas de tatouage. Et elle me dit, ok papa, je me ferai pas tatouer, d'autant plus que moi-même, j'avais prié que Dieu te parle à ce sujet-là. Amen. Dieu n'est-il pas vivant? Dieu n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas celui dans sa grâce qui confirme sa parole et qui parle à ses enfants aujourd'hui encore? Quand je vis de telles choses, je vois là la signature de Dieu sur sa parole. Comment pourrais-je douter de sa présence et de l'amour qu'il a à l'égard de mes bien-aimés enfants et de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous? Amen. Quatre terres sur lesquelles sont tombées la parole de Dieu. Quatre terres différentes. Mais quatre terres qui représentent finalement notre volonté. Cette capacité de dire « Oui, je voudrais que cette digne parole eh bien, vienne accomplir son œuvre dans mon cœur et pour du fruit. » Ou des terres, trois terres malheureusement dans cette histoire, où l'on peut dire que la personne qui l'a reçue, quelque part, l'a refusée. Voyez-vous, un serviteur de Dieu disait une fois, il y a une seule muraille que Dieu ne peut pas détruire. C'est la muraille de notre volonté. Celle à laquelle Dieu ne touche pas. Alors je vais essayer d'imager ces quatre terres. J'aime bien utiliser les images. Allez, imaginez un instant que la première terre, ce ballon, est notre cœur qui reçoit la parole de Dieu. Imaginez que ce ballon soit le cœur qui reçoit la parole, la semence, dans le long du chemin, où la parole ne peut pas pénétrer et donc pas produire du fruit. Imaginez que votre cœur soit ce ballon. Alors je n'ose pas l'imaginer pour aucun d'entre vous. Mais pour certains peut-être qui sont venus dans ce lieu et qui persistent à dire « Non, la parole n'est pas digne d'être reçue. » Voilà la manière dont votre cœur est ce soir. Dieu veut y souffler sa parole. Il veut y manifester sa grâce, mais regardez ce qui se passe. Alors je vais essayer de reprendre mon souffle. Voyez-vous que quelque chose s'y passe? Non. Simplement parce que lorsque la semence est semée dans un cœur qui dit non, elle ne produit rien. Aucun fruit. La parole ne peut pas pénétrer les cœurs. Pardon, je parle sans micro. Notre cœur qui s'endurcit, qui refuse la parole de Dieu, ne peut pas la recevoir. Et dans la parole de Dieu, lorsque vous lisez les textes, ça a probablement été le cas des pharisiens, qui pourtant ont vu Jésus, ont observé ses miracles, ont vu la signature de Dieu, le sceau de Dieu sur la vie de son bien-aimé fils qu'il a envoyé sur terre. Mais ils étaient trop confortablement installés dans leur petite religion, dans leur petite tradition, dans leurs chères habitudes. Que s'est-il passé? Eh bien, ils ont été comme cette terre qui n'a pas reçu la parole de Dieu. Rien n'y pénétrait. Comme ce brigand sur la croix qui a dit « Si tu es le fils de Dieu, descends toi-même de ta croix. » Son cœur a été tellement dur alors que Jésus, de par l'amour qu'il lui montrait, voulait se manifester à lui. La preuve, l'un des brigands l'a reçu, mais lui est resté endurci dans son cœur. La semence a été semée pour les deux brigands. L'une est tombée le long du chemin, un cœur dur qui n'a rien reçu. Et puis la deuxième terre, c'est l'endroit pierreux. Il nous est parlé là d'une semence qui commence à pousser. Une semence, la parole, qui est reçue avec joie. Mais qui, dès que vient la persécution, dès que viennent les épreuves, les temps, les moments difficiles, une semence part dans tous les sens. Alors, voilà ce deuxième cœur. Voilà ce que produit la parole de Dieu. J'ai retrouvé mon souffle. Voilà une semence qui est dans la main de Dieu, qui est tenue par Dieu, Et aussi longtemps que tout va bien, cette semence, elle produit quelque chose. Mais aussitôt que l'épreuve vient... On m'avait toujours dit qu'un homme ne pouvait pas faire deux choses en même temps. Je suis tristement en train de constater cela. Cette parole a commencé à grandir. La semence a été reçue avec joie. Mais dès que l'épreuve arrive, dès que la personne qui a reçu Jésus doit parler de lui, peut-être dans son travail, à ses collègues, peut-être dans son voisinage, regardez ce qu'elle fait. Elle se dégonfle lamentablement. Elle se dégonfle. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas assez solide. Parce que cette personne a peut-être reçu la parole de Dieu bien, au niveau des expériences et l'a laissée uniquement au niveau des expériences. Alors elle a été touchée dans ses sentiments, dans ses émotions, tout va bien. Tout va bien, on est heureux, on vit comme sur un petit nuage. Et voilà que 2 mois passent, 3 mois passent, la première épreuve arrive. Puis la deuxième, et la troisième. Et puis on commence à dire, Seigneur, si tu existais. Et puis on quitte le Seigneur. Si toutes les personnes qui avaient vécu des miracles seraient là aujourd'hui dans l'église. Malheureusement, la semence a été semée dans cette terre qui n'a pas pu permettre à cette semence de germer, de grandir et de produire du fruit lorsque l'épreuve est venue. Troisième terre, la terre épineuse. Alors cette terre, c'est la terre qui rentre, la semence qui rentre dans un cœur qui est mélangé. Finalement, Dieu, on l'aime bien. Mais il y a aussi ces choses, ces convoitises, ces désirs, ces plaisirs que nous offre à ce qui nous entoure, qui nous plaisent. Alors, non pas que je sois contre cela, à partir du moment où Dieu est placé en premier dans notre vie. Mais voilà que cette parole elle-même a également été reçue avec joie. Une expérience a été vécue, et puis on persévère. Mais on marche d'un côté du trottoir, et puis de l'autre côté, sur la route. Et puis d'un côté, on est en sécurité, on est avec Dieu. Et de l'autre côté, ben voilà que les plaisirs essayent de nous happer. Et on est partagé. On ne se donne pas pleinement au Seigneur. Il n'est pas réellement le premier dans notre vie. C'est une décision. En fonction de notre décision, la parole de Dieu peut être semée, en tout cas dans cette terre-là, dans les épines. Alors, voyons, je vais essayer de garder le micro là. Hein. Vous me dites tout de suite si... Alors, pour l'instant, pas de problème. Hein ? La parole de Dieu remplit le cœur, elle remplit de joie, les expériences sont vécues, mais voilà que les épines arrivent. Ceux qui sont sensibles, bouchez-vous les oreilles. Hein. Ah, finalement, vous rigolez, vous m'entendez bien sans micro. Hein. Excusez-moi de vous avoir effrayé. Avez-vous vu ce qu'il reste dans un cœur qui reçoit la parole de Dieu dans une terre épineuse ? Partagé ici par les plaisirs qu'offre le monde et ici par le désir de venir à l'église et d'obtenir de Dieu ce que finalement ils ne peuvent pas obtenir parce que Dieu n'a dans leur vie pas pris la première place. Dieu malheureusement tenait ce cœur dans sa main, mais il est obligé de constater que d'après le choix qu'a fait ce personnage qui a désiré rester dans ce saule épineux, eh bien a dû le lâcher de sa main. C'est peut-être le cas de Luc, chapitre 18, verset 18, cet homme riche qui dit à Jésus, « Mais que faut-il que je fasse pour obtenir la vie éternelle ?» Et Jésus lui dira, « Mais ce que tu fais, c'est bien. Tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu, tu fais de bonnes choses. J'ai trouvé en toi de bonnes choses. Ce que tu as besoin de faire maintenant, laisse tes richesses. Elles ont la première place, elles vont t'empêcher de me suivre et de porter du fruit. Laisse-les. Qu'est-il dit de cet homme ? Il repartit tout triste. Pourquoi ? Parce que cette semence a été semée dans une terre épineuse. Quatrième terre, la bonne terre. La terre qui n'est pas une terre qui veut dire que nous sommes parfaits, évidemment, mais qui est une terre qui reçoit la parole de Dieu favorablement, qui permet à la parole de Dieu d'accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu l'envoie en nous. Ce sont ceux qui sont des méditateurs de la parole de Dieu, des personnes qui aiment lire cette parole pour y connaître la volonté de Dieu et grandir dans leur capacité à croire que malgré l'épreuve, Dieu tient tout dans sa main. À croire que si la tentation vient, Dieu a la capacité de nous en éloigner. C'est ceux qui reçoivent la parole de Dieu dans de la bonne terre et qui permettent à Dieu de conduire leur vie et de porter du fruit. Alors nous verrons en conclusion ce que veut dire porter du fruit, mais laissez-moi gonfler le dernier cœur. Alors ce qui est important, ce n'est pas la grosseur du ballon. L'un porte 30, l'autre 60, l'autre plus de fruits. Ce qui est important, c'est que le ballon soit rempli de la présence de Dieu, de la semence qui a été semée en lui. Voilà un cœur qui se laisse conduire par Dieu. Si Dieu le mène à gauche, il ira à gauche. Si Dieu le mène à droite, il ira à droite. Pourquoi ? Parce que la semence a été non seulement semée dans un cœur qui a dit oui, mais la semence a été également semée dans un cœur qui chaque jour reçoit la parole de Dieu et la déclare parole digne d'être reçue. Alléluia. C'est le cas de Zachée dans la parole de Dieu qui a reçu favorablement ce qui lui a été dit et qui a changé de vie. C'est le cas de Bartimée dans la parole de Dieu, qu'il a reçu favorablement. C'est le cas de Paul, qui bien qu'étant été maltraité, bien qu'ayant subi des épreuves, a tenu ferme jusqu'au bout. Parce que la parole de Dieu a été semée dans un cœur qui a dit oui à celui qu'il aimait plus que tout. Amen. Sommes-nous de ceux qui acceptent la parole de Dieu dans de la bonne terre? Regardez ce qu'il est dit dans Colossiens chapitre 1, versets 9 à 10. Paul, ce fidèle serviteur, fidèle jusqu'au bout, dira ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Il arrose la semence qui est semée. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Lorsque nous recevons la digne parole de Dieu, alors nous marchons de manière digne parce que la parole de Dieu change nos cœurs et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu. N'est-ce pas là l'attitude d'un homme qui a accepté que la parole tombe dans une terre qui a permis à cette semence de germer, de grandir et de produire du fruit? Il a, Paul, toujours eu le souci de connaître Dieu. Il n'a pas suivi Dieu pour l'apparence. Il n'a pas suivi Dieu pour paraître. Porter du fruit ne veut pas dire avoir l'apparence de porter du fruit. Porter du fruit ne veut pas d'abord dire faire de bonnes œuvres. Porter du fruit, selon le livre des Galates, c'est porter le caractère de Jésus en nous. Si vous êtes rempli du caractère de Jésus, alors ce caractère vous poussera automatiquement à faire des bonnes œuvres. Porter du fruit, c'est lorsque les gens vous voient, ils puissent dire mais tu es tellement rempli d'amour. Mais je suis étonné par ta douceur. Tu vis une épreuve. Mais je suis étonné par la paix que tu as face à l'épreuve que tu es en train de vivre. Et là, vous êtes des témoignages. Parce que vous ne cherchez pas à paraître, mais vous portez du vrai fruit. Le caractère de Jésus en vous. Et ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que peut-être que certains ont l'air joyeux aujourd'hui, mais que la semence est semée dans les épines ou dans les rochers. Vous avez l'apparence. Viendront des épreuves. Viendront des tribulations et des difficultés. C'est pas un scoop ce que je vous dis là. Et elles mettront à jour si la semence a été semée dans la bonne terre ou si finalement vous n'êtes que cette terre remplie de rochers ou d'épines. Je conclurai en lisant un texte que j'ai beaucoup aimé, qui me parle de la réputation qui est le paraître et du caractère qui est ce que Dieu veut faire en nous pour que nous puissions porter du fruit. Pour terminer, je dirais ceci, la réputation, je lirai ce texte, c'est ce que l'on est censé être. Le caractère, c'est ce que l'on est. La réputation, c'est une photographie. Le caractère, c'est votre visage. La réputation, c'est ce que l'on a quand on arrive dans un nouvel endroit. Le caractère, c'est ce que l'on a quand on s'en va. La réputation s'apprend en une heure. Le caractère ne se révèle pas à la lumière avant des années. La réputation se fabrique en un instant. Le caractère, lui, se construit tout au long de la vie. La réputation pousse comme un champignon, finalement sur les rochers ou au milieu des épines, voire même le long du chemin. Le caractère croît comme un chêne. La réputation se base sur un seul article de journal. Le caractère se construit dans une vie de labeur. La réputation vous rend riche ou pauvre. Le caractère vous rend heureux ou malheureux. La réputation, et je termine par cela, c'est ce que les hommes écrivent à votre sujet sur votre pierre tombale. Le caractère, c'est ce que les anges disent de vous autour du trône de Dieu. Fermons les yeux. Bernard, si tu veux bien venir, merci. Je voudrais ce soir juste pendant un instant que nous prenions face à cette parabole, cette image, ce tableau tellement bien dessiné par ce que Jésus a dit. Quel merveilleux dessinateur que Jésus. J'aimerais que nous considérions pour chacun d'entre nous cette parabole. Je l'ai fait sur moi-même, sur ma propre vie, lorsque je l'ai étudiée. Et je disais, Seigneur, pardon pour les endroits de ma vie où subsistent encore des endroits épineux, rocailleux. Peut-être même des endroits où il me semble que mon cœur est encore un cœur de pierre, comme un cœur qui est le long du chemin, ne permettant pas à la semence de pénétrer le cœur. Ce soir peut-être, tu es celui qui est le long du chemin. J'aimerais te dire de la part de Dieu, si tu refuses de croire que la parole de Dieu est digne d'être reçue, nous n'avons vu ce soir que trois des raisons pour lesquelles elle est digne, il y en aurait tant d'autres encore. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu, quel insensé tu es. Le jugement que Dieu dépose sur ceux qui refusent sa parole. Quel insensé, quel insensé tu es. Il est insensé, le cœur de celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Ce soir, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Ouvre ton cœur à sa parole. Peut-être réalises-tu aussi ce soir, alors que pendant un moment tu réfléchis à cela. C'est vrai, face à l'épreuve, face aux priorités de ma vie, je réalise. Mon cœur est encore tellement épineux, tellement rocailleux. Et je voudrais, ô Seigneur, que ce soir, mon oui à ta semence soit un oui qui travaille mon cœur à ce point que celui-ci devienne malléable comme de la bonne terre et permette à l'excellente parole de Dieu, digne de confiance, digne d'être reçue, d'être semée dans mon cœur et de produire du fruit, le caractère de Christ en moi qui me permettra de le servir. Que ceux qui disent « moi, je voudrais que ce soit dans cette terre que tombe la parole. » C'est votre oui ferme qui changera la terre de votre cœur. Et Dieu se réjouira de ce que vous fassiez partie de ces quelques personnes qui passent par le chemin étroit, accompagnées par Jésus. De ce que vous fassiez partie de cette terre qui, contrairement aux trois autres, malgré l'épreuve, malgré les difficultés, permettra à la semence de porter du fruit. Et comme Paul, vous permettra de rester fidèle jusqu'au bout. Vous qui voulez dire moi, que vous réalisiez que votre cœur est dur, épineux ou rocailleux, vous qui voulez dire ce soir moi, je veux que cette semence excellente tombe dans une terre qui lui permet de produire du fruit. Levez simplement la main là où vous êtes. Levez simplement la main là où vous êtes. Et je veux prier pour vous. Priez afin que Dieu accomplisse son œuvre. Priez afin que Dieu manifeste sa gloire. Priez afin qu'il vienne. Et que sans tarder, il y dépose sa semence. Et que par l'œuvre de son esprit, celle-ci produise du fruit. 30, 60, 100 pour la gloire de son nom. Seigneur, tu vois ceux et celles qui ont levé leurs mains. Tu vois ceux et celles qui disent, moi, je veux que cette semence ne tombe pas ailleurs que dans un cœur qui ce soir la reçoit favorablement. Bénis mes bien-aimés qui ont levé la main et tends ta main sur eux. Viens par ton esprit, leur permettre de revêtir la nature de Jésus, de porter le caractère de Jésus, de marcher afin d'être comme Paul l'a été, faisant pleinement confiance à ce que dit ta parole, d'être des témoins de celle-ci. Seigneur, merci pour mes bien-aimés, qu'ils soient renouvelés ce soir, qu'ils soient fortifiés ce soir. Et je te prie pour toute l'Église ici présente, que nous soyons ensemble comme ce cœur qui a été imagé par ce ballon gonflé, qu'il est resté face à l'épreuve, face à la difficulté, face au désir de ce monde, il est resté gonflé parce qu'il t'a fait confiance, mais également s'est laissé conduire et diriger par toi. Père, que nous soyons tous ainsi. Tous et toutes te faisant confiance. Les persécutions viendront. Ce que tu as dit dans ta parole n'est pas toujours facile à entendre. Ce que nous vivrons ne sera pas toujours facile dans l'avenir. Mais face à ce que tu as dit et qui s'accomplira certainement, donne-nous de rester fermement attachés à toi, saisissant ta parole, lui permettant, la méditant, à notre foi de grandir dans notre cœur, afin que lorsque viendront les difficultés, nous puissions affirmer et proclamer ta parole avec force, afin qu'elle s'accomplisse dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Seigneur, ensemble, l'Église te bénit et te remercie pour l'œuvre si merveilleuse que tu as accomplie sur la croix et qui nous permet aujourd'hui, alors que nous ne le méritons pas, de recevoir favorablement cette semence afin qu'elle produise son œuvre. Merci Seigneur, visite ton peuple, touche les cœurs par ton esprit, que des vies soient changées, transformées par toi, que des vies ce soir soient bouleversées par toi dans ta grâce. Dans ta grâce.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.